Le dévoilement de Dieu numéro 205. Stable en période périlleuse. 28 mars 2021. Pasteur Brian Kozurek. Ce matin, nous voulons lire au paragraphe 55-56 du message de frère Branham, le dévoilement de Dieu 55-56, où il a dit, dans l'Ancien Testament, Dieu était caché. Quand il était sur son propitiatoire, sur le propitiatoire, par un voile. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dans son temple. Mais les gens entraient et adoraient comme ceci. Mais, souvenez-vous, il y avait un voile, amen, qui cachait Dieu. Il savait que Dieu était là. Il n'y pouvait pas le voir. Cette colonne de feu n'est plus jamais réapparue là. L'avez-vous remarqué? Pas une seule fois, dans les Écritures, depuis le moment où cette colonne de feu est rentrée derrière ce voile, elle n'est mis s'est montrée de nouveau, jusqu'à ce qu'elle est revenue par Jésus-Christ. Dieu était voilé. Son Fils quand il était sur terre, il a dit, « Je viens de Dieu, et je retourne à Dieu. » Son sept ensuite, Paul, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, en route vers Damas, voilà cette colonne de feu qui était là de nouveau. Qu'était-ce? Elle était sortie de derrière le voile. Frère Branham donne 4 coups sur la chair. NDE, gloire à Dieu. 108 il avait été derrière le voile. Or, il avait été derrière quoi? Un voile de peau. Voyez-vous? Des peaux de blaireau. Derrière le voile. Et quand ce voile s'est déchiré, le jour de la crucifixion, que le voile qui l'enveloppait s'est déchiré, le jour de la crucifixion, le propitiatoire était à la vue de tous. 109. Or, les Juifs n'y pouvaient pas comprendre que Dieu puisse faire miséricorde à un peuple pécheur et vil comme nous. Mais Néhémie pouvait pas voir celui qui faisait miséricorde. Parce qu'il était caché. Il était derrière le propitiatoire. À l'intérieur. Avec des peaux de blaireau suspendues qui le couvraient. Ce matin, j'aimerais examiner ce propitiatoire de Dieu. Car sans la miséricorde de Dieu, nous allons tous périr. Dans sa prédication, Christ révélé dans sa propre parole 22 août 1965 MPP 16. Maintenant, je désire lire un passage du livre des Hébreux, chapitre 1er, et un passage du livre de Jean, chapitre 1er, Hébreux, 1 à 3, et Jean 1, à me serviront de texte. Mon sujet ce matin est une étude des Écritures. Lisons maintenant Hébreux 1, 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quelle lecture magnifique! Maintenant, Jean 1, 1 au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et ensuite, au paragraphe 17, frère Branham dit, bien. Et mon sujet de ce matin Christ est à révéler dans sa propre parole. Ce qui m'a amené à parler là-dessus, c'est que, sachant que ce que nous disons Néhémie doit pas simplement être dit parce que nous sommes assemblés pour parler de n'importe quoi au hasard, mais ce doit être quelque chose qui aidera à stabiliser les gens. Maintenant, j'aimerais ajouter, que c'est la raison pour laquelle nous Néhémie devrions pas ajouter notre pensée dessus, car c'est la parole de Dieu, et pas la nôtre. Et s'Esther pourquoi? Il Esther si important de Néhémie dire que ce qu'il a dit. Maintenant, il continue, car nous allons traverser des eaux dangereuses, perfides. Nous sommes déjà en train de naviguer à travers elles. Et parfois j'imagine bien que vous devez ressentir la même chose que moi. On dirait que tout cela Esther en grande partie est bien angoissant. 18 Je parlais à un jeune ministre de l'Évangile et à son épouse. Dans la pièce, il y a juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux, comme le reste du monde, comme tous les autres êtres humains de cette terre. J'ai dit, rappelez-vous, Satan va vous frapper, vous donner un coup. Peu m'importe qui vous êtes, Dieu, il a droit à ce coup-là. Quelle forme préférez-vous qu'il prenne? Ce coup? Que vous soyez aveugle, ou arthritique et condamné à rester assis dans une chaise, ou bien nerveux? Voyez-vous? Il a un endroit quelque part où il peut vous frapper. Il a droit à ce point vulnérable. Voilà l'endroit que vous devez tenir couvert tout le temps. Remarquez les pensées de frère Branham, en rapport avec ce temps périlleux, par lequel nous devrons passer. Je vous ai demandé de penser sobrement et sérieusement, au sujet de ce que le prophète de Dieu, essaie de nous dire ici, car après tout, son but en cela, Esther de nous préparer à l'enlèvement et le retour à la maison. Et ainsi ce message, nous aidera à être prêts, si nous le prenons à cœur. Et aussi, je veux que vous vous rappeliez, là où frère Branham nous a dit que notre refuge serait dans l'apparition, parce qu'aussi longtemps que nous sommes en Christ, nous sommes à l'abri de ces eaux dangereuses par lesquelles nous passons. Et que sont ces eaux dangereuses? Laissez échapper la pression 9 juin 1962 p. 58. Eh bien, vous direz, frère Branham, je n'ai mis fume pas. Je n'ai mis bois pas, je n'ai mis chic pas, je n'ai mis comme un pas adultère. Ce n'estère pas ça. Ce n'estère pas ça. Le péché. Ce sont là les attributs du péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Voyez, si vous croyez, vous n'émifferiez pas cela. Voyez, non, ce n'estère pas ça le péché. Les gens peuvent. C'est Esther l'incrédulité qui Esther le péché. Celui qui n'émit croira pas Esther déjà condamné. Voyez? C'est Esther juste un attribut de l'incrédulité. Si vous pouvez vous débarrasser de tout cela à force de cogner, en disant, Seigneur Dieu, je crois exactement ce que ta parole dit, et je crois, comme nous l'avons prêché hier soir, que l'apparition du Seigneur précède la venue du Seigneur. En effet, ce sont des mots tout à fait différents. Voyez, l'apparition, c'est Esther maintenant, selon qu'il l'avait promis qu'il serait avec nous dans les derniers jours. Et quel refuge, quelle consolation Esther ce, chrétien, pour nous de pouvoir nous tenir ici ce soir dans la présence de Dieu, en face de sa parole, et de voir les choses impossibles qu'il a promises ici être manifestées juste devant nous. Quelle chose merveilleuse! Et si ce n'estère pas là un lieu de refuge, si ce n'estère pas là un havre de repos, je n'émissais pas ce que cela serait, voir Jésus, lui qui a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Oh! Quelle promesse Esther-ce! Eh bien, combien croit que Esther la vérité? Très bien. Maintenant, prions. Ainsi, nous sommes entrés dans ce temps périlleux, comme la Bible avait prédit que cela serait. Pourtant il Esther ici pour nous voir, le traverser. Je peux m'imaginer les enfants d'Israël, qui sont passés aussi à travers quelques moments périlleux. Pourtant, la présence de Dieu, à travers la colonne de feu, Esther allait au-devant eux, la nuit et sa nuée de gloire pendant le jour. Quel repos, qu'elle refuse de savoir que sa présence est ici, avec nous, comme il a prophétisé dans sa parole, qu'il viendrait au temps de la fin. Et nous, les chrétiens du message, qui sommes minoritaires dans le monde, de ceux qui prétendent être chrétiens, sommes avertis qu'il est ici, comme il l'a promis, je Néhémie vous abandonnerai pas, ni Néhémie vous laisserai. Pensez-y, nous Néhémie sommes pas des gens parfaits, mais nous suivons un Dieu parfait et sa parole parfaite. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur une de ces pensées. Ce matin et Esther, comme nous avançons à travers ce temps périlleux, nous serons constamment agités par les faiblesses de cette chair. Mais nous devons arriver à ces endroits sous le sang, comme frère Branham nous l'a dit ici, car il a dit que le diable a le droit de vous donner un coup de poing à votre côté faible, et ainsi, nous devons garder cet endroit constamment couvert par le sang de Jésus-Christ. Vous voyez, aussi longtemps que nous avons nos faiblesses couvertes, alors le diable n'a pas d'endroit pour vous donner un coup de poing. Et c'est Esther la clé. Aussi longtemps que ce n'est Esther pas couvert, il en a le droit, parce que vous lui avez donné ce droit, en le lui exposant. Mais si vous le gardez couvert sous le sang de Jésus-Christ, alors il n'est mis, pourra pas accéder à cette faiblesse. Et comment le gardons, nous sous le sang? En marchant dans la lumière. 1 Jean 1, 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Dans Esaïe 1, 18, nous découvrons que venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et est-ce ainsi? Bien, frère Branham nous dit dans sa prédication intitulée La loi 15 janvier 1955-33 où il a dit « Mais le sang en Christ était parfait. » Maintenant, je Néhémie serai jamais parfait. Et vous Néhémie serez jamais parfait. Je Néhémie serai jamais parfait à vos yeux. Vous Néhémie serez jamais parfait à mes yeux. Mais laissons cela de côté. Qu'en est stérile aux yeux de Dieu? Je le dis en tant qu'humain. Je le dis comme votre frère. Mais Dieu vous regarde à travers le sang de son Fils, comme un racheté. Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père dans les cieux, est-ce parfait. Et ce n'est pas ce que vous avez fait, vous n'avez aucun mérite, mais c'est ce que Christ a fait pour vous. Remarquez que Esaïe nous dit que si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, qui est à Jésus, 20 juin 1964 p. 21. Et c'était Dieu, et il devait être blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités. Il est le grand diamant. Et ainsi, quand vous coupez un diamant, avez-vous déjà remarqué? Vous le coupez en trois coins, et le soleil reflétera à travers cela, cette couleur. Voyez, et en regardant le rouge à travers le rouge, cela produit le blanc. Le saviez-vous? C'est Esther juste. Le rouge à travers le rouge, c'est Esther le sang rouge regardant à Dieu regardant au pécheur rouge à travers le sang rouge, le rend blanc. Il est Esther dans le cœur. Voyez-vous? La communion 19 mai 1962 p. 32. Israël avait un seul lieu des rencontres pour communier, le seul lieu où Israël pouvait rencontrer Dieu, c'était sous le sang versé. Dieu n'avait mis les rencontrer nulle part ailleurs que sous le sang versé. Maintenant, nous allons dans Nombre. Chapitre 19. Juste un instant pour citer cela. Nous n'aurons pas le temps de le lire, mais juste le citer. Nous voyons dans Nombre 19. Nous voyons que Dieu a parlé aux enfants d'Israël dans leur voyage, disant, « Trouvez-moi une génisse rousse, qui n'a jamais porté un joug. » C'est-à-dire quoi ça? Cela veut dire quelque chose. Si nous avions le temps, nous pourrions aborder ces symboles, une génisse rousse. Elle doit être rousse, sans tache, rousse. Le rouge est-il dans un sens une mauvaise couleur. Mais le rouge est-il la couleur de l'expiation. Savez-vous donc que, du point de vue scientifique, le rouge vu à travers le rouge paraît blanc? C'est-il vrai? Le rouge vu à travers le rouge? Regardez le rouge à travers le rouge? Ça paraît blanc. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. Mais quand Dieu les regarde à travers le sang versé de son Fils, vous paraissez aussi blanc que la neige, le rouge vu à travers le rouge. On n'obtient pas cela avec une autre couleur. Le rouge vu à travers le rouge paraît blanc. Et c'est comme ça que Dieu vous voit. Même si vous, peu importe ce que vous êtes, si vous passez sous le sang versé, Dieu ne vous voit pas, mais il regarde à travers le sang. Et même si vos péchés sont très nombreux, cependant vous lui paraissez aussi blanc qu'un lys. Frère Branham dit aussi dans sa prédication, le témoignage est la vie cachée de 3.08.950.30. Lorsqu'il cite ce que Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voyez, soyez donc parfaits comme pouvez-vous être parfaits, pas en vous-même, mais en lui. Dieu ne vous regarde pas alors, il regarde à lui. Vous voyez, c'est ici que beaucoup ont une mauvaise compréhension de ce que l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens 4, où il parle du don du quintuple ministère pour l'Église, et il est dit, Éphésiens 4, 11-14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous n'ayons soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Maintenant, ce perfectionnement des saints, Néhémie se rapporte pas à ce que Jésus disait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce sont deux choses différentes. Nous sommes parfaits par le sang de Jésus-Christ, mais la perfection de l'Église, dont Paul parle, est le ministère de la parole dans ses cinq offices, qui apporte une perfection ou une maturité de l'Église. Les eaux de séparation 21 janvier 1955 p. 14. Quand Dieu regarde à travers le sang, il n'est aimé vous voit plus comme un pécheur. Il vous voit racheté. Amen. Vous êtes racheté, parce qu'il vous voit toujours à travers Christ. C'est pourquoi nous pouvons être parfaits. Pas parfaits dans le sens de sans péché. Nous sommes parfaits aux yeux de Dieu. Quand nous sommes en Christ. C'est pourquoi il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dans Hébreux chapitre 10, Paul essaie d'expliquer que la loi, qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, Néhémie pouvait jamais amener l'assistant à la perfection, parce que Dieu regardait à travers le sang de l'animal. Mais maintenant, il regarde à travers le sang de son Fils. La perfection vient par Jésus-Christ. Eh bien, je Néhémie suis pas parfait à vos yeux. Il se peut que vous Néhémie soyez pas parfait à mes yeux. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? Voilà où se situe la chose. Et si vous êtes né de nouveau dans le corps de Christ, alors Dieu vous voit tout aussi parfait que Christ l'était. Amen. Il n'y a rien que vous puissiez faire, ce n'est pas par des œuvres que vous pouvez accomplir, pas du tout. C'est par la grâce que Dieu vous a fait cette offre, et si vous avez accepté cela, aux yeux de Dieu, vous êtes parfait, racheté, lavé dans le sang de l'agneau, sans faute, sans défaut, sans tâche. N'est-ce pas merveilleux? Israël à la mer Rouge, 26 mars 1953-35-64. Dieu a déjà glorifié son Église. Ce qu'il a justifié, il a aussi glorifié l'Église, en Christ. Si vous êtes justifié en Christ, vous êtes déjà justifié en Christ, en ce qui concerne Dieu. Jésus a dit, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Comment pourriez-vous être parfait? Mais aux yeux de Christ, ce soir, chaque chrétien est de nouveau parfait. Je suis parfait en Dieu, juste comme Christ l'était. Vous l'êtes aussi, chaque autre croyant. Car il ne s'agit pas de ma sainteté. C'est la sienne. Dieu n'a mis peut accepter la mienne, je n'en ai aucune. Mais je viens en Christ, par la foi. Et par Christ, je suis en lui, et parfait aux yeux de Dieu. Les eaux de séparation 21 janvier 1955 p. 14. Quand Dieu regarde à travers le sang, il n'est mis vous voit plus comme un pécheur. Il vous voit racheté. Amen. Vous êtes racheté, parce qu'il vous voit toujours à travers Christ. C'est pourquoi nous pouvons être parfaits. Pas parfaits dans le sens de sans péché. Nous sommes parfaits aux yeux de Dieu, quand nous sommes en Christ. C'est pourquoi il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dans Hébreux chapitre 10, Paul essaie d'expliquer que la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, Néhémie pouvait jamais amener l'assistant à la perfection, parce que Dieu regardait à travers le sang de l'animal. Mais maintenant, il regarde à travers le sang de son Fils. La perfection vient par Jésus-Christ. Eh bien, je Néhémie suis pas parfait à vos yeux. Il se peut que vous Néhémie soyez pas parfait à mes yeux. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? Voilà où se situe la chose. Et si vous êtes né de nouveau dans le corps de Christ, alors Dieu vous voit tout aussi parfait que Christ l'était. Amen. Il n'y a rien que vous puissiez faire, ce n'est pas par des œuvres que vous pouvez accomplir, pas du tout. C'est par la grâce que Dieu vous a fait cette offre, et si vous avez accepté cela, aux yeux de Dieu, vous êtes parfait, racheté, lavé dans le sang de l'agneau, sans faute, sans défaut, sans tâche. N'est-ce pas merveilleux? La parole de Dieu infaillible, 6 avril 1956-61. Et vous, Néhémie, pouvez être parfait que quand vous êtes en Christ, vous êtes rendu parfait par la souffrance et la mort qu'il a endurée à votre place à la croix. Dieu Néhémie voit pas vos péchés. Il Néhémie voit qu'une personne parfaite, le corps de Jésus-Christ. Il Néhémie le peut pas. Voilà pourquoi Balaam, ce prophète mercenaire, a certainement pensé que Dieu allait maudire Israël. En effet, il a regardé aux mauvaises choses qu'ils avaient faites. Mais Néhémie voyait pas le rocher frappé et le serpent terrain qui allait devant eux, et qui faisait l'expiation. Dieu Néhémie pouvait voir au travers de l'expiation que son sang qui répondait à leur place. Vous voyez? Psaume 119, 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Éphésiens 5, 26. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Apocalypse 22, 13-14. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui pratiquent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. La version Scofield dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Remarquez l'efficacité du sang et comment cela provient de la parole. Maintenant, frère Branham nous dit ici que nous devons rester couverts par le sang, et cela provient du fait de nous couvrir du parapluie de la parole pour cette heure. Frère Branham était un boxeur professionnel et il a été entraîné au combat, et il vous enseigne comment vaincre et comment combattre le diable. Et la première chose qu'il a appris dans la boxe, c'était de se protéger, de protéger son visage et son front, avec ses mains et ses bras. Parce que si vous êtes frappé avec force au visage ou poitrine ou à l'estomac, vous serez poussif et affaibli, perdant la force qui vous restait. Et ainsi, nous voyons que le naturel typifie le spirituel. Il parle ici d'un combat. Psaume 27, 1-5. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Frère Branham a utilisé cette écriture comme son texte pour prêcher le message d'enlèvement. Et remarquez qu'il parle d'un temps de trouble. Et pourtant, remarquez combien il nous interdit, en ce temps des troubles, que nous devrions garder notre confiance en lui, notre refuge. Maintenant, en ces temps de troubles, Dieu va nous cacher dans un endroit secret. Et nous découvrons que cet endroit est dans Psaume 31, 19-20. Oh! Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. 2 Timothée 3, 1-17 version amplifiée. Mais comprends que, dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux de grand stress et des troubles, difficiles à y faire face et à supporter. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, un appétit gloutonnant pour la richesse, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux. Ils seront sans affection naturelle, enfin sensibles et inhumains, implacables sans trêve et apaisement. Ils seront des calomniateurs, fauteurs des troubles, intempérants et lâches quant à la morale, déloyaux, conduite incontrôlée et féroce, ennemis du bien. Ils seront des traîtres perfides, gonflés de vanité. Ils seront amis des plaisirs sensuels et des vains amusements, plutôt que des amoureux de Dieu. Car quoiqu'ils affichent une forme de dévotion et de sainteté, ils renient et rejettent et sont étrangers à la puissance de cela, leur conduite dément l'authenticité de leur comportement. Évite de telles personnes, éloigne-toi d'elles. Car au milieu d'eux, se trouvent ceux qui se frayent leur chemin dans les églises captivant des membres d'églises idiots et de nature faible et spirituellement en un, chargés des fardeaux de leurs péchés, et facilement emporté par différents désirs impies et des impulsions séductrices. Ces femmes faibles écouteront tout celui qui les enseignera. Elles sont toujours à la recherche de l'information, mais n'arrivent jamais à la reconnaissance et la connaissance de la vérité. Maintenant, comme Jannès et Jambres étaient hostiles et ont résisté à Moïse, ainsi ces hommes sont hostiles et résistent à la vérité. Ils ont des pensées dépravées et déformées, et sont réprouvés, contrefaits, sont rejetés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas très loin, car leur folie sera évidente devant tous, comme cela l'était de ceux qui furent cités. Maintenant, vous avez observé attentivement, et suivi diligemment mes enseignements, ma conduite, mon but dans la vie, ma patience, mon amour, ma fermeté, mes persécutions, souffrances, comme celles que j'ai endurées à Antioche, à Iconium, et à Lystre, des persécutions que j'ai endurées, mais le Seigneur m'en a délivré de toutes. En effet, tous ceux qui aimeront la sainteté et qui sont déterminés à vivre une vie consacrée et divine en Jésus-Christ, rencontreront des persécutions à cause de leur position religieuse. Mais les méchants et les imposteurs deviendront pires, séduisant et égarant d'autres et étant eux-mêmes séduits et égarés. Mais comme pour toi, continue à t'accrocher aux choses que tu as apprises et dont tu es convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Chaque écriture est inspirée par Dieu, donnée par inspiration, et bénéfique pour l'instruction, pour le reproche et la conviction du péché, pour la correction de l'erreur et la discipline dans l'obéissance, et pour former dans la justice, lequel estère une vie sainte en conformité avec la volonté de Dieu, dans vos pensées et actions. Afin que l'homme de Dieu puisse être complet et compétent, bien ajusté et équipé à fond pour toute bonne œuvre. Ainsi, nous voyons qu'il vient un temps de trouble, et frère Branham dit, nous naviguons actuellement à travers des eaux dangereuses et perfides. Mais remarquez, le message que nous voyons ici dans les psaumes de Timothée 3. Pendant ces temps, nous devons rester attentifs et ancrés dans le creux du rocher. En d'autres termes, nous devons veiller à protéger notre côté faible des flèches de l'ennemi. Maintenant, comment s'y prendre? En restant focalisé sur Christ, qui estère ici. Et il estère la parole. Et ensuite, nous sommes couverts par son sang. 1 Jean 1, 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il estère lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Maintenant, pour continuer avec cette pensée, au sujet de couvrir nos faiblesses, examinons cette pensée un peu plus loin, sur le fait qu'en marchant dans la lumière, rende le sang efficace pour nous. Et la raison pour laquelle je le dis, est-ce qu'à travers plusieurs années, certains ont prêché qu'il n'y avait plus de miséricorde, parce que l'agneau avait quitté le propitiatoire, quand les seaux étaient ouverts. Il aurait tiré de la prédication de frère Branham, les âmes qui sont en prison, maintenant. Et comme le propitiatoire a un lien avec l'efficacité du sang, nous avons besoin de savoir ce que ceci veut dire pour vous. Et moi, comme un chrétien et comme cela nous impacte, aussi bien, nous qui avons en définitive besoin du sang pour couvrir nos fautes et nos erreurs. Les âmes qui sont en prison, maintenant 10 novembre 1963 M24-1, voyez, cela ne m'y fut pas révélé. Quand cette septième trompette sonna, ou plutôt le septième ange, ou un sceau fut ouvert, alors il y eut un silence dans le ciel. Voyez, ce qui arriverait ne m'y fut pas révélé. 138 Mais s'estère sous le sixième sceau où ces trompettes sonnèrent. Souvenez-vous que là nous voyons que l'agneau s'est avancé et est apparu sur la scène. Il avait quitté le trône de miséricorde. Son œuvre de la rédemption était terminée. Et il s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il n'y eut plus de temps. Immédiatement un ange apparut au chapitre 7 au chapitre 10. Verset 7. Disant. Cet ange descendit et jura qu'il n'y aurait plus de délai. 139. Mais, voyez-vous, dans ce livre se trouvait ce qui était racheté. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tous ceux pour qui l'Esther mort était inscrit dans ce livre et Néhémie pouvait pas quitter son siège de médiateur jusqu'à ce qu'il ait accompli tout le rachat. Il Néhémie pouvait pas les racheter à la croix. Car ils étaient déjà prédestinés dans le livre de vie de l'agneau et ils devaient rester là à faire l'intercession jusqu'à ce que la dernière personne soit scellée. Gloire. Les âmes qui sont en prison. Maintenant 10 novembre 1963 M55-6. C'était là une chose très difficile à vous apporter. À vous les gens. Je suis si reconnaissant de voir les gens qui viennent de partout. Et vous? Juge. Tellement. 391 Je n'ai mis, c'est pas si cette chose est vraie. Mais un jour cela doit être ainsi. Voyez? Cela doit en arriver là. Et cela pourrait l'être maintenant. Voyez? Et de toute manière, le monde continuera son chemin. Les gens viendront toujours à l'autel. Ils crieront toujours. Mais cela Néhémie leur fera aucun bien. Voyez? Ce sera fini d'eux. Voyez? Ce sera terminé. Il n'y aura point de miséricorde. Souvenez-vous-en. Et le sanctuaire se remplit de fumée. Que celui qui a Esther souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui a Esther saint se sanctifie encore. Il n'y a plus de miséricorde. Quand l'agneau prend le livre, s'Esther cela. Tout Esther finit. Et on dirait que le tout pourrait arriver maintenant. 392 Peut-être que nous avons encore un jour. Peut-être qu'aujourd'hui, s'Esther ce jour. Peut-être que demain, s'Esther le dernier. Peut-être que ce soir, s'Esther le dernier soir. Peut-être que celle-ci, s'Esther la dernière année. Je, Néhémie sais pas. Mes amis. Je Néhémie fait que vous le dire. Je Néhémie sais pas. Cela Néhémie me sera jamais dit. 393 Mais quand Dieu prend ce dernier nom dans le livre de vie et le rachète, tout Esther finit. Maintenant, ce qui s'Esther passé. Esther que certains ministres ont pris cette citation et ont dit que la miséricorde était finie, il a dit que quand ce dernier entre, s'Esther finit. Ainsi, en ce moment, que celui qui a Esther souillé, restera souillé, et celui qui a Esther sanctifié, restera sanctifié. Maintenant, nous avons déjà montré que s'Esther la parole, qui nettoie et lave notre culpabilité et notre péché. Ainsi, vous Néhémie pouvez pas dissocier la miséricorde de la parole de Dieu. Pensez-vous être destiné à la miséricorde de Dieu? Pourtant vous rejetez sa voie qui mène cette miséricorde. Cela montre que vous n'avez jamais reçu sa miséricorde pour commencer. Que ferez-vous de ce Jésus-Christ 24 novembre 1963 M209? Si nous n'aimons croyons pas cela, volontairement, après que la vérité nous a été présentée, il n'y aura plus de miséricorde. Il n'aimons sera plus accordé de miséricorde. Pasteur, vous qui écoutez cette bande, qu'en dites-vous? Membre d'église, qui écoutez cette bande, qu'en dites-vous? Qu'allez-vous faire? Si nous n'aimons croyons pas cela volontairement, nous n'aimons pouvons pas nous en débarrasser en nous lavant les mains. Vous n'aimons pouvez pas en faire une passe au quartier général, cela va vous retomber droit sur le nez. Vous avez entendu cela? Qu'en est-il de vous? Comment allez-vous vous tenir en ce jour-là? Il est soit sur vos mains soit dans votre cœur. C'est l'un ou l'autre. Que Dieu nous vienne en aide. Et ainsi, nous devons savoir où est le propitiatoire. Et qui est celui qui est assis sur le propitiatoire ici? Et quel en est le but? Parce qu'en connaissant où se trouve le propitiatoire, qui s'y assoit, et dans quel but, ensuite nous comprendrons mieux le but derrière le propitiatoire. Et cela va nous rassurer que notre compréhension de la chose est correcte. Maintenant, avant que nous l'émilisions, souvenez-vous que nous restons focalisés sur le message Christ est révélé dans sa parole. Pépèse 17-18 où frère Branham dit que nous devons protéger notre côté faible. Ainsi, nous regardons alors au but du propitiatoire, comme nous lisons les prochaines Écritures. Exode 25, 17. Maintenant, comme nous lisons ici, nous voyons le mot propitiatoire être utilisé. Le mot hébreu pour miséricorde est kaporé et signifie le lieu de l'expiation. Ainsi, c'est le lieu où notre expiation doit être faite. Ce plateau ou siège était l'endroit où le souverain sacrificateur aspergeait le sang à partir du sacrifice. Ainsi, en fait, c'est là où l'on trouvait du sang. Et je veux que vous preniez aussi note que c'était fabriqué avec de l'or pur. Maintenant, nous savons aussi à travers nos études que l'or signifie la divinité. 18-20. La chose suivante que je veux que vous remarquiez, c'est les deux chérubins qui couvraient le propitiatoire avec leurs ailes. Remarquez comment chaque chérubin se tenait du côté opposé, l'un de l'autre et que chacun regardait l'autre en face, du côté opposé où ils se tenaient, montrant qu'ils étaient en opposition. Maintenant, souvenez-vous, Moïse avait reçu l'ordre de le fabriquer, selon le modèle qu'il avait vu au ciel. Hébreux 8, 5-13. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je n'ai mis me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je n'ai mis me souviendrai plus de leurs péchés. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Maintenant, l'arche n'était juste qu'un box, fabriqué à partir du bois de Chittim, mais c'était la maison de la parole de Dieu, ou le témoignage, que Dieu devait leur donner. Ainsi, nous voyons que le but complet de l'arche était d'être le lieu d'habitation de la parole de Dieu. Exode 25, 20-23. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire. Entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées. Sa largeur d'une coudée. Et sa hauteur d'une coudée et demie. Comme les ailes de deux chérubins faisaient face, étant déployées, et c'était au milieu de cela que le trône de Dieu devait être. Juste entre ces deux chérubins, qui se regardaient en face, chacun dans son coin, et pourtant tous les deux, faisaient face à la présence du Dieu Tout-Puissant. Et c'est là que Dieu habiterait avec l'homme, assis sur sa parole. Et remarquez ce qu'il dit, qu'il ferait ici. Et là, je te rencontrerai et communierai avec toi, au-dessus du propitiatoire, mais entre les deux chérubins. Maintenant, qui étaient ces deux chérubins et pourquoi étaient-ils représentés de chaque côté du propitiatoire? Question et réponse. 28 juin 1959-361-406. Deuxième Satan a été littéralement chassé du ciel par l'archange Michaël et Dieu. Et je veux que vous remarquiez que nous avons deux chérubins qui conduisent à l'adoration à Dieu. Et Satan est devenu jaloux à cause de la position de Michaël avec Dieu. Ainsi, où était Michaël? Le commencement et la fin de la dispensation des gens. 9 janvier 1955. 2 S. Et en ce temps-là, Michaël s'élèvera. Le grand prince, Michaël était Christ, bien sûr, qui ont combattu la guerre des anges au ciel avec le diable. Satan et Michaël se sont battus, plutôt l'un contre l'autre. Question et réponse. 23 août 1964. Satan était l'ange le plus beau. Il était un chérubin qui était couvert d'ombre. Et dans Mariage et divorce 21 février 1965-17-7. Savez-vous que Satan était colossien égal avec Dieu? Un jour? Certainement, qu'il était. Tout mais une créature, il était tout. Se tenait à la main droite de Dieu dans les cieux, un grand chérubin conducteur. Esaïe 14, 12-14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu dis en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Remarquez que les étoiles sont les fils de Dieu. Et n'est-ce pas intéressant que cet AstraZeneca signifie des étoiles ou fils et marque? Ainsi Satan veut marquer tous les fils avec un nouveau marne pour changer leur pensée. C'est pourquoi il l'appelle un nouveau système humain opérationnel pour produire l'humanité 2.0. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Bien, la seule manière d'être comme le Très-Haut, c'est de recevoir les doxas de Dieu, qui sont ses opinions, ses valeurs, et ses jugements. Et pour cela, vous devez avoir des gènes de Dieu et être baptisé de son Saint-Esprit. Mais Satan a voulu exalter sa propre manière de penser, pas le ainsi dit le Seigneur. Ézéchiel 28, 12-15. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu m'étais le sceau rempli à la perfection. Tu étais le signe plein de sagesse. parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes, et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Remarquez, un souverain sacrificateur dans l'adoration de Dieu, il portait un pectoral, mais n'avait que 9 pierres et il en manquait la 3e rangée, que le souverain sacrificateur avait. J'en avais déjà parlé avant. Ainsi je n'en parlerai pas ce matin, tu étais un chérubin protecteur. Qui protégeait quoi? Le propitiatoire. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre, complet et non souillé dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Le sceau de Dieu 16 février 1961. Eh bien, nous voyons qu'il était le premier meurtrier. Et il était le premier à être jaloux. Et Lucifer était devenu jaloux de Michaël. Il a carrément amené cela jusque sur la terre et a transmis cela dans l'homme. Et Satan. Et Caïn, en revêtant ce mal acquis, fut le premier à recevoir la marque. C'est Dieu qui l'a marqué. Personne n'aimé devait le tuer. On l'a laissé tranquille. Mais, rappelez-vous, dès que Dieu l'a marqué, il est sorti de la présence de Dieu. Retenez donc cela. Oh, nous n'avons pas le temps de consacrer à cela une étude très profonde parce que, oh, frère, nous pourrions creuser ceci ici pendant 6 mois, voyez-vous, sans jamais en toucher la surface. Exode 26, 34. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Exode 30. Si tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Exode 40, 20. Il prit le témoignage, et le plaça dans l'arche, il mit les barres à l'arche, et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Nombre 7. 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Dans Jéhovah Jiré 24 février 1956 p. 50. Il dit, quand nous aurons dressé notre grande tente quelque part ici, nous aurons beaucoup de temps pour examiner ces choses entre les lignes. Voir la résurrection, comment elle évolue là, c'est bien beau. Tombez simplement amoureux de lui et il vous révélera cela. Et puis, j'ai remarqué que, vous savez ce que Dieu a fait à Abraham et à Sarah là, je vais vous dire ce qu'il a fait. Espace vide sur la bande-n.d.e. Il les a rajeunis en un jeune homme et une jeune femme. Oh, direz-vous, frère Branham, c'est ridicule. Mais il l'a fait. Il les a rajeunis en un jeune homme et une jeune femme. Il a fait. Nous avons besoin de revenir à l'endroit où nous voudrons mettre tout de côté, qui soit en conflit avec notre âme, étant correct avec Dieu, et prêt pour le retour à la maison. Maintenant, si vous vous rappelez tous de la vision, il y avait une petite pièce à l'intérieur de cette tente et les gens y entraient. D'un côté, infirmes et boiteux et toutes sortes d'afflictions. Mais quand ils en sortaient de l'autre côté, ils sortaient complètement guéris. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? 1er janvier 1956 p. 18. Alors il m'emmena et je vis une immense tente. Je n'avais jamais vu de tente pareille. Elle était remplie et entourée de gens. Et je sortis vers. C'était comme si je me tenais au-dessus des gens, regardant en bas, où je venais de faire un appel à l'autel. Et des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. 32 Je regardais et j'entendis un homme se lever et dire, appelez la ligne de prière. Et les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté-ci, sur ma gauche, tandis que je regardais vers l'estrade. Et la ligne de prière se forma jusque dans la rue. Je remarquais à ma gauche ce qui aurait été ma droite, si j'avais été sur l'estrade, une petite construction en bois. Et je vis cette lumière que l'on a tous en photo, vous savez, qui estère toujours dans les réunions. Je vis donc cette lumière me quitter, aller vers cette construction et entrer. Et une voix me dit, « Je te rencontrerai là-dedans, ce sera le troisième pull. » Je dis, « Pourquoi ?» 33 Il dit, « Eh bien, ce n'y sera pas une démonstration publique comme les autres. » Et je revins à moi-même. Ainsi, vous voyez, nous en arrivons à un moment où nous aurons la répétition de l'alpha, quand Jésus était ressuscité des morts et beaucoup des saints qui s'endormaient se sont levés avec lui quand il vint dans cette résurrection et il nous a été dit qu'ils étaient vus sur la rue par beaucoup de témoins. Matthieu 27, 46-53 et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Eli. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre. Et, l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent un grand nombre de personnes. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bilvenga, bilvenga@yahoo.fr. C'est Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.